Bonjour et bienvenue dans Zoom Zoom Zen. Et le samedi, c'est même encore meilleur que la semaine, car c'est le Zoom Zoom Best. Une heure pour comprendre notre époque et décrypter les concepts dont on parle sans parfois tous bien les comprendre. À mes côtés, l'indispensable Manon Mariani, notre spécialiste des réseaux sociaux, et notre reporter, chanteur, imitateur, nouveau Valentino Rossi, le formidable Quentin Lui. Aujourd'hui, on a choisi de revenir sur un concept longtemps moqué, mais qui revient dans l'air du temps, celui de vieille fille. Et puis on parlera d'exploitation dorée, ou comment les riches exercent leur domination sur leurs employés de maison. On commence ce meilleur de Zoom Zoom Zen avec la ferme intention de vous faire changer de regard sur celles qu'on appelle les vieilles filles.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Bonjour Marie Coq.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et auteur du livre Vieille fille qui vient de sortir aux éditions de La Découverte. Un livre dans lequel cette expression revêt donc un sens positif quand il s'agit d'un choix. Est-ce que bientôt vous aimeriez qu'on puisse dire on ne naît pas vieille fille, on le devient ?
Alors oui, bien sûr. Et puis j'ai l'impression aussi que vieille fille, c'est plus peut-être une mentalité en réalité qu'une vraie situation. Enfin voilà, c'est les retours que j'ai là depuis la sortie du livre, où en fait je me rends compte qu'il y a évidemment des célibataires endurcis qui peuvent se reconnaître dans le terme, mais aussi des femmes mariées, des hommes qui disent moi-même la vieille fille, c'est moi en fait.
C'est ça. Mais longtemps et peut-être encore toujours, je m'en rends pas compte en 2022, c'est un terme qui reste un peu un épouvantail. C'est ce qu'on ne souhaite pas à l'autre d'être une vieille fille. Surtout aux filles, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Les hommes, eux... Enfin, les vieux garçons, ça se dit aussi.
Les vieux garçons, ça se dit aussi, mais on est vieux garçons plus tard.
Ouais, oui, voilà, c'est ça, il y a une différence. On n'est pas égal devant le vieille fille ou vieux garçon.
Parce qu'on peut quand même fonder une famille sur le tard. Donc voilà, la vieille fille, c'est vrai que 35-40 ans, bon là, le couperet tombe. Et c'est vrai que c'est une expression qui n'est plus tellement usitée. On ne l'entend pas tellement dans la rue quand on se fait insulter, quoi. C'est pas vraiment ça qui sort. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, la situation en elle-même, elle est quand même... encore redouté. Et je trouve ce qui est rigolo, c'est que les célibataires, bon, de 30 ans, ça passe. Les femmes sans enfants, on comprend un peu, mais alors tout en même temps, de façon définitive. Alors là, ça fait beaucoup.
Voilà. On va en parler durant cette heure ensemble. Face à vous, Marie, et il va avoir beaucoup de mal à vous suivre sur cette idée que certaines femmes pourraient ne pas avoir envie d'être avec lui. En général, d'ailleurs, c'est plutôt lui qui les prévient, comme notre nouvelle stagiaire ce matin.
Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps, ce sont des histoires courtes. Compact, passionnel.
Bienvenue dans l'équipe, Dolores.
Comme avec vous, Mathieu.
Comme avec moi, compact, passionnel. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël.
Alors, au-delà de votre rôle de rédacteur en chef, vous assurez chaque après-midi une chronique pivot de notre émission. Ça, c'est vous qui m'avez écrit, j'ai jamais écrit ça. Une chronique pivot de notre émission, le bien nommé D'où ça sort.
Alors non, vraiment non, 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 Manon. Je me serais jamais permis une telle moquerie. C'est évidemment une facétie de notre du Père Fontana, notre réalisateur communiste.
Merci.
Moi, j'aurais jamais mis ça.
Il faut dire ce que c'est quand même, Cyril.
Mais j'y viens.
Ah oui, pardon.
Mais j'y viens. On l'a dit, laide, revêche, frigide, avare, aigrie, ennuyeuse et ennuyée. Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi Ghislain a envoyé un passage de la maquette que Manon vous avez envoyé à M6 pour faire partie de Popstar.
J'adore.
Manon rêvait à l'époque de faire partie des L5.
Bah, comme
malheureusement, elle est sur France Inter.
Bref. Mais où sont les L5 est une question qu'on peut poser.
Oui, au moins, Manon
elles
est
ont
sur
fait
France Inter. La vieille fille, d'où ça sort? Eh bien, du plus loin de notre histoire, en fait. C'est le regard, ou plutôt le jugement qu'on porte sur elle qui a évolué, pas tant que ça, mais un petit peu. Par exemple, au Moyen-Âge, et notre invité en parle dans son livre, les femmes qui refusaient de se marier finissaient par vivre emmurées, on les appelait les recluses, impossible pour elles de faire autrement, puisqu'à l'époque, ne pas être mariée était interdit. Un certain Balzac a écrit sur le sujet son roman La vieille fille, publié en 1837. On y rencontre Rosemarie, 40 ans, qui attend toujours un mari digne de son rang. Bon, alors là, évidemment, on n'est pas loin du portrait de M.M. Mais si elles ne sont plus des recluses, on se moque toujours encore de ces femmes sans mari, jusqu'à la caricature. Désormais, il y a même des tests dans les magazines féminins pour savoir si on est une vieille fille. Et tant pis, non. Si cela se transforme en chape de plomb, si il y en a. Si on est femme célibataire, vous savez, avec ça en toile de fond... L'horloge biologique qui tourne, cette chape de plomb, j'en parlais, non seulement la femme n'est pas mariée, mais en plus, elle ne sera jamais une mère, disgrâce. Et les vieux garçons, me demanderez-vous, Quentin, non? Des séducteurs, pardi.
Quelle histoire, ça.
Des séducteurs. Ah, c'est vrai que les hommes s'en sortent toujours comme ça. Merci Cyril. Alors, au début de votre livre, Marie Coque, vous racontez comment, jeune fille, vous avez eu envie d'embrasser les jeunes garçons qui étaient dans la même école que vous, et comment cette envie, elle est passée. Elle est passée progressivement, elle est passée du jour au lendemain. En fait, vous avez pris conscience que cette envie d'embrasser des garçons, c'était plus une pression sociale qu'une vraie envie?
C'est pas tout à fait passé comme ça. C'est en fait effectivement passé les amours de jeunesse, enfin les amours de la trentaine, etc. Il y a eu un moment où effectivement, comme on disait, il y a cette espèce d'horloge qui se met en place, qu'on le veuille ou non en réalité. Et donc c'est vrai que la recherche est un peu plus stressante parce qu'on cherche aussi bien sûr une histoire d'amour et on cherche aussi un bon géniteur, quelqu'un avec qui on pourrait évidemment passer du temps beaucoup au même endroit, etc. Donc c'est beaucoup de critères. Et moi, cette recherche m'a lassée. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, en fait, j'ai été fatiguée. Ça m'a saoulée, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement. Et j'ai fait une sorte de sevrage. Je me suis donc, ce que je dis, retirée du game. Au départ, je pensais que ce serait quelques semaines, quelques mois. Et puis,
vous y avez pris goût.
Et puis j'y ai pris goût. C'était vraiment pas mal. Et du coup, c'est vrai qu'en restant comme ça, loin de tout ça pendant plusieurs mois, ça a duré quand même bien 2 ans où vraiment je me suis retirée complètement de ce truc-là. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Et après, je me suis dit, mais en fait, aussi la recherche du couple et être en couple, c'est aussi une façon de rater énormément d'expériences qu'on ne peut vivre aussi que seul.
Les vieilles filles ont-elles tout compris à notre époque? Sont-elles en avance sur leur temps? Et si surtout on leur foutait la paix? On continue d'en parler avec notre invitée Marie Coque après une pause musicale. Arcade Fire, Unconditional Eye sur Inter.
Zoom zoom zen.
Look out kid, just your heart. You don't have to play the part they wrote for you. Just be true, there are things you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you, I can't teach it to you. Look out kid, trust your mind, but you can't trust it every time. You know it plays tricks on you, and it don't give a damn if you're happy or you're sad. But if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad. Shake, things will break, you make mistakes.
France Inter. Zoom, zoom, zen.
Et si c'était les vieilles filles qui avaient tout compris? C'est notre proposition cet après-midi dans Zoom Zoom Zen, ou plutôt celle de notre invitée, la journaliste Marie Coq, auteure d'un livre choc, Vieilles filles, aux éditions de La Découverte. C'est encore mal vu d'être ce qu'on n'appelle plus d'ailleurs une vieille fille, juste une célibataire endurcie en 2022. Vous sentez toujours un regard, un jugement particulier?
Alors le jugement, il est peut-être un petit peu moins fort, même si donc moi dans ce que je raconte, j'ai aussi une expérience un peu privilégiée parce que je suis devenue vieille fille à Paris, et là maintenant je vis à Marseille, donc c'est des grandes villes, etc. J'imagine que c'est pas du tout la même chose d'être une vieille fille, quand on peut-être est destiné à reprendre la ferme familiale, enfin je ne sais pas. Enfin donc voilà, donc là il y a déjà
en
ça.
En milieu urbain, disons que être vieille fille, c'est plutôt cool.
Ça va. On arrive déjà à être à peu près à passer à peu près à travers les gouttes, à être à peu près anonyme, etc. Mais par contre, je trouve en fait que la pression, elle vient pas tant de encore une fois des injures ou de la pression donc qu'on peut nous dire, mais c'est plutôt l'idée que partout tout le temps on nous répète en fait que l'amour, le couple, mais surtout la maternité, c'est l'expérience la plus incroyable du monde. Et en fait la pression, elle est plutôt là, je trouve, c'est-à-dire qu'on vous raconte de toute façon que cette espèce de sentiment de l'amour océanique là, que enfin quand on voit les vidéos, enfin de n'importe, voilà, quand les gens sortent des maternités, je peux pas expliquer ce qui s'est passé, enfin je pourrais jamais, enfin voilà. Et donc c'est ça qui fout la pression, c'est-à-dire qu'il y a cette expérience qui a l'air d'être l'expérience ultime et à laquelle les vieilles filles se disent qu'elles doivent renoncer. Donc moi je trouve que c'est surtout ça la pression en réalité.
Je vais vous dire, il y a aussi un autre truc, à mon avis, c'est quand on a eu un enfant, effectivement c'est magique, mais on en bave tellement dans le quotidien de l'enfant et tout ça, qu'on a bien envie de dire à tout le monde, ne passe pas à côté de cette expérience unique, parce que moi je suis passé par là.
Ouais,
pas du
vécu.
Tout, moi je suis journaliste, monsieur, je ne parle jamais de mon expérience personnelle.
D'accord.
Marie, j'ai appris dans votre livre que c'est en regardant la télé-réalité La Villa des Cœurs Brisés sur TFX que vous avez réalisé pourquoi le couple ne peut pas être une option. Qu'est-ce qui se passe de si dingue dans ce programme qui vous inspire à ce point le rejet du couple?
Alors oui, La Villa, ça a été une grande passion. J'ai regardé ça comme ça, juste, enfin, vous savez, c'est ce qu'on fait juste pour voir, quoi, juste 5 minutes.
Et on est accro.
Voilà, 2 saisons plus tard, je peux faire une thèse sur le sujet. En fait, donc La Villa des Cœurs Brisés, comme son nom l'indique, c'est donc une villa qui accueille des cœurs brisés. Donc les cœurs brisés sont des candidats de télé-réalité qu'on a vus déjà dans d'autres aventures et parfois des inconnus. Et donc ils arrivent avec une problématique. Donc, c'est-à-dire un souci à résoudre. Et pour résoudre ce problème, ils seront aidés par une love coach, Lucie, qui vient distiller ses conseils et qui vient souvent aussi faire des espèces d'expériences comme ça un peu fortes avec les candidats. Et donc, en général, les problématiques, ce sont, j'ai du mal à gérer ma jalousie, j'ai été trahie. Sous-entendu, mon ex a parlé en DM sur les réseaux. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, parmi ces candidats, il y a une candidate qui arrive avec une problématique qui est « Moi, l'amour, je m'en fous. » Enfin, c'est pas ma priorité. Mmh. Et c'était en fait de voir comment toute la production se met en quatre pour traiter ce problème, en fait, c'est-à-dire
parce que c'est un problème, forcément.
Parce que c'est un problème, voilà. Et c'est confessé comme ça, avec un peu de honte. Ouais, bon, c'est vrai, elle dit « Bon, moi, j'ai mon taf, j'ai mon chien, j'ai mes amis, etc. » Et donc l'expérience en question, réalisée par la Love Coach, ça va être de lui faire porter des sacs de sable. Donc évidemment qui sont trop lourds pour elle, et tout ça pour arriver à en fait qu'il y a un inconnu qui arrive, évidemment très beau gosse, torse nu, qui arrive depuis la plage, etc. et qui va l'aider à porter les sacs. Et donc la démonstration est faite. On voit bien que pour porter les sacs, on est mieux à deux que tout seul.
Pour porter quelque chose de lourd.
Pour porter quelque chose
évidemment.
De lourd. Mais personne se dit que les sacs, on n'est pas obligé de les porter. Voilà. Et donc c'est ça.
Ah oui,
voilà.
Oui.
C'était ça en fait.
Ah, ça a été le déclic.
C'était ça le déclic de la villa. Très bon programme que je recommande.
Évidemment.
À tout le monde.
On a bien compris. Ça a donné envie. Très beau teaser. Manon Mariani.
On est d'accord aussi que les réseaux sociaux mettent une grosse pression, parce que quand on est dans son lit seul le soir et qu'on voit des stories de couples qui sont au cinéma ou au restaurant, ça déprime.
Encore
un
point de vue bien journalistique neutre.
Oui, totalement. C'est pas une expérience personnelle.
Alors c'est vrai. Mais on voit aussi tous ces gens dans la rue. En fait, quand on est dans la rue et qu'on voit les personnes en train de faire 40 fois la photo du fameux restaurant, de la fameuse sortie, et après que tout le monde est sur son téléphone et plus personne ne se parle, bon, ça redétend un peu. Mais évidemment que en fait, tout est mis en scène. Il y avait par exemple, vous savez, ces photos qu'on a vues partout, là où il y avait le... Sur Instagram, on voyait les mains comme ça, là, vous savez.
Un couple avec quelqu'un dans des
endroits magnifiques, etc. Et on se dit, bon, mais en fait, l'endroit, il est magnifique. Crier la main, qu'il y ait quelqu'un derrière ou pas, en vrai, quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours très, très mis en scène. Les demandes en mariage, les choses comme ça. Bon, enfin, bref.
Lui, Marie Coq, il avait le profil type pour finir vieux garçon. Passion pour la moto, addiction au karaoké.
En ce temps-là, c'était Paris.
Oh là là. Et surtout, volonté maladive d'accumuler les conquêtes féminines, comme le prouve son obsession de devenir une rockstar, ce qui techniquement n'était pas possible. CF, l'extrait sonore qu'on vient d'entendre. Aujourd'hui, pourtant, Quentin, lui, est en couple et il est heureux de l'être, même s'il s'autorise de temps en temps à prendre le 06 d'une des filles qu'il interviewe dans la rue, vous nous l'avez dit. Alors Quentin, qu'est-ce que les gens dans la rue, justement, ont pensé en vous voyant avec votre pancarte « vieille fille » ?
Alors, en règle générale, ça les a fait plutôt sourire. À l'image de Lucille, la trentaine, vendeuse dans un magasin vegan, elle porte un t-shirt oversize, les cheveux mi-longs et un piercing juste au-dessus de la lèvre en forme de fleur. C'est parti pour les...
vieilles filles. C'est ce terme, quoi. Il est un peu étrange, je trouve. Vieille fille, c'est tout de suite hyper connoté. Trentenaire, quarantenaire, voire un petit peu plus, qui a jamais trouvé l'amour et qui vit seule avec ses chats, quoi. Moi, je trouve ça trop cool d'être célibataire et d'avoir plein de chats. J'ai un chat, mais, mais je suis célibataire, ouais. Et je me sens pas du tout vieille fille. Mais par contre, c'est quelque chose qui me fait peur, peut-être, de finir comme ça. Qu'on dise de moi que je suis une vieille fille, bizarrement.
Lucille poursuit sa réflexion et à ses yeux, vieille fille, ça tient peut-être à autre chose que le plaid et les chats. Et
je pense que c'est aussi lié au fait que, comme à un certain âge, on peut plus reproduire, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'horloge biologique qui tourne. Quand bah, finalement, ça fonctionne plus, ah bah mince, du coup c'est trop tard quoi. Comme les hommes finalement peuvent toujours procréer, mais les femmes, voilà, à partir de 35, c'est chaud quoi. Si t'es seule, tu commences à être une vieille fille.
Mais alors, est-ce qu'elle, elle le vit comme une pression sociale ?
Je pense pas du tout que ce soit une réussite sociale. Et pourtant, j'en sens quand même le spectre. J'ai jamais voulu avoir d'enfant en plus, j'en veux toujours pas. Et pourtant, je me dis, merde, mais qu'est-ce que je suis en train de rater, quoi. J'ai plein d'autres projets que d'avoir une famille ou un foyer ou trouver un appartement et une maison, quoi. Et pourtant, j'y pense quand même et je me dis, ouais, mais à 40 ans, j'aimerais bien quand même l'avoir.
Je croise Thierry maintenant, 50 ans, marié, deux enfants, chemise dans le pantalon, le pull sur les épaules.
Vieille fille, une femme âgée, une femme qui n'a pas d'enfant, un peu ringarde, un peu décatie, peut-être un peu aigrie même. Je trouve ça pas terrible en fait, c'est finalement assez sexiste parce qu'on dit pas un vieux garçon. Ah si, on dit un vieux garçon, c'est vrai. Mais je sais pas, ouais, elle est un peu connotée très négativement pour quelqu'un qui a pas eu d'enfant. Et on n'est pas obligé d'avoir d'enfant, on n'est pas obligé d'avoir une fibre maternelle. C'est vrai que c'est un peu une culpabilité qu'on fait porter sur les femmes en fait.
C'est alors qu'apparaît devant moi ma dernière rencontre du jour, Christine. Oh. 54 ans, les cheveux blonds qui laissent apparaître des racines plus foncées. Elle est commerciale pour une centrale d'achat. Elle se penche sur ma pancarte.
Vieille fille. Bah, je me demande si je suis une vieille fille, parce que je suis célibataire à 54 ans.
Je lui demande comment elle vit ce célibat.
C'est très compliqué, moi qui vis en entreprise, je suis très régulièrement sollicitée. On essaye toujours de savoir si j'ai une activité sexuelle tout en étant célibataire. Est-ce que je suis sur des applications de rencontres ? Jusqu'où je vais, même les femmes, d'autant plus parce que je suis bien habillée et encore physiquement jolie. Pardonnez-moi, on ne me voit pas, c'est ça l'avantage de la radio. Mais on me mate toujours quand j'arrive au bureau de manière ostentatoire. Et en 2022, dans le monde de l'entreprise, les hommes vont mater mon cul, mes seins, sans vergogne.
Mais alors Christine, est-ce que votre liberté n'inspire pas tout simplement fantasme et jalousie ?
Oui, je pense que ça énerve aussi les femmes en couple, que je arrive le lundi en disant comment je me suis éclatée au Rosa Bonheur ou comment j'ai fait telle et telle visite et comment je me suis acheté une super robe de marque sur Vinted. Parce que oui, évidemment, j'ai envie de crâner un peu. Et parfois, je suis malheureuse d'être seule et j'en rajoute parfois un petit peu, c'est vrai.
Vous savez quoi, Christine ? Moi, je suis dans votre équipe. Vous avez raison d'en mettre plein la vue aux collègues relous qui, en plus, à défaut de s'éclater au Rosa Bonheur comme vous samedi dernier, étaient certainement aux côtés de l'être aimé dans un canapé avec des chats devant la Starac. Alors, c'est qui les vieilles filles maintenant ?
Très très bien vu. Mon cher Quentin, on a intitulé cette émission Vieille fille, notre côté racoleur certainement. En fait, on aurait pu l'intituler Célibat choisi. Marie Coq, on vient d'entendre le témoignage à la fois drôle et touchant de Christine, qui était clairement vocalement la sœur de Philippe Manœuvre.
C'est
on peut
vrai,
le dire quand même.
Ah, et
même... Oh, mais vous tenez oh bien, là, Philippe Manœuvre. Non. Une imitation de plus pour Quentin. Alors, elle, Christine, on lui demande carrément des comptes au bureau sur sa vie sexuelle sous prétexte qu'elle est célibataire. Parce que j'imagine qu'on ne demande pas aux gens qui sont en couple ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Enfin bon,
rien,
un peu moins.
Comme tous les
comptes. Rien comme tous les couples. Ça suffit, Quentin, de me regarder comme ça, je vous en prie. Ça dit beaucoup de la pression sociale qui s'exerce autour de nos vies sexuelles, qui, ma foi, ne regarde que nous. Et donc, surtout quand on est célibataire.
Oui, alors, Je suis d'accord évidemment avec Christine, mais en réalité, je trouve que la pression, elle est à peu près la même sur les célibataires que sur les gens en couple.
Ah d'accord, il n'y a pas de différence pour vous.
En fait, c'est en fait l'idée que la sexualité doit être quelque chose de... Enfin, que le rythme de la sexualité ne doit jamais être ralenti. Ah, oui. C'est-à-dire qu'il faut une sorte de cadence. Et c'est vrai que du coup, la vieille fille, comme on ne sait pas très bien si elle a quelqu'un sous la main ou pas, on se demande si elle est capable ou pas de tenir cette cadence. Mais je trouve qu'il y a une pression aussi à la sexualité qui existe très fort dans les couples, et notamment dans les couples qui sont ensemble depuis assez longtemps. On voit bien les couples qui se disent « Ouais, là, je sais pas, je ne fais plus l'amour tant de fois par semaine ou tant de fois par mois. » Et là, d'un coup, ça devient une espèce de... Alors, c'est vrai que quand ils sont en couple, on ose moins leur demander.
Oui, c'est plus tabou.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est
clairement plus tabou. Pression à la sexualité, en réalité, je trouve qu'elle est la même pour les uns et pour les autres.
Quentin.
J'ai l'impression qu'on se permet plus d'aller demander à une femme célibataire de 54 ans si elle a Tinder, si elle va sur Mythique, etc. Alors que, bah voilà, quelqu'un, un collègue qui est en couple, je lui parle quasiment jamais de sa compagne. C'est un motif, un leitmotiv pour...
Oui, mais c'est peut-être parce que vous vous dites que si vous parlez de sa compagne, il y a quelque chose qui est pas tout à fait respectueux, je sais pas quoi. Alors que là, quand en fait la vieille fille, elle est toute seule. C'est-à-dire que
on insulte personne.
On insulte personne, voilà. Et on ne Mais je vais m'arrêter là.
Mais bah non, Marianne.
Est-ce que le célibat chez les femmes représente pas aussi un fantasme du coup?
Alors, il peut, en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est très ambigu dans le statut de la vieille fille, parce qu'on entend aussi là le témoignage là de l'homme que vous avez interrogé dans la rue. La vieille fille, c'est souvent aussi quelqu'un qu'on considère de quelqu'un comme d'ingrat physiquement aussi. Donc, il peut y avoir le fantasme de la célibataire, mais par contre, la vieille fille ne fait pas du tout fantasmer, parce qu'on considère qu'elle se néglige physiquement, ou bien que voilà, qu'elle est un peu frigide, qu'elle est pas baisable, enfin des choses comme ça. C'est des choses qu'on entend beaucoup aussi autour de la vieille fille. Donc en fait, sur le fantasme, je suis pas tout à fait sûre. Et puis, en fait, on va fantasmer peut-être plus sur Christine, effectivement, qui raconte comment elle se met aussi toujours très en valeur, c'est-à-dire qui joue encore le jeu de la séduction. Alors que peut-être, une vieille fille qui ne, enfin, c'est-à-dire où la relation à l'autre, la relation amoureuse et la relation sexuelle à l'autre n'est pas sa priorité, elle va peut-être être moins identifiée aussi comme un potentiel objet de désir. Bon, je dirais ça.
Il y a quelques jours, on faisait une émission sur le quiet quitting, ce phénomène au travail, un peu la lassitude au travail, tout simplement. Vous expliquez le ras-le-bol que vous avez éprouvé dans le premier job où vous avez été embauché en CDI, la souffrance. Vous dites que dans le travail, on s'accroche à une forme de normalité. Et c'est finalement, on peut faire le parallèle avec le couple. Ne pas être en couple, c'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on est en couple par réflexe moutonnier, en fait.
Oui, et puis surtout le parallèle avec le travail. Moi, ça m'avait aussi apparu pendant le, quand justement après cette première expérience. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu quitter ce travail dans lequel je me sentais pas bien, on me disait, ouais, mais quand même, t'as déjà un travail. Et puis tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas gagner, etc. C'est des choses qu'on dit aussi aux gens en couple quand il y a de l'eau dans le gaz. Ouais, mais quand même, il est sympa, mais quand même, vous entendez bien. Et puis bon, de toute façon, l'amour, ça peut pas être tout le temps rose. Voilà. Donc en fait, il y a toujours cette idée de comment on fait pour maintenir une situation qu'on a eue, qu'on a galéré en gros à décrocher, peut-être. Enfin voilà. Et quand on l'a, même si c'est pas la bonne, on veut à tout prix la conserver.
Et comment vous vous positionnez par rapport à la maternité? Parce que, bon, alors évidemment, on peut être mère sans être en couple, hein, ça existe, mais est-ce que pour vous, c'est l'un avec l'autre? On peut faire l'un sans l'autre? Comment vous voyez les choses?
Alors là, c'était tout à fait personnel, mais moi, un enfant seul, je me sentais pas les épaules. Je trouve que c'est beaucoup de travail, déjà à deux, trois, quatre. Donc s'il y avait comme ça des espèces de communautés dans lesquelles on pouvait élever les enfants, ça, peut-être que j'aurais réfléchi à deux fois. Et après, l'idée, c'est pas non plus de dire que être vieille fille, c'est ne pas aimer les enfants. Enfin, moi, il y a plein d'enfants que j'aime beaucoup, des enfants que j'aime moins. Enfin, voilà, comme les adultes.
Au moins, vous pouvez choisir. Parce que si c'est les vôtres, vous êtes obligé de les aimer.
Voilà, c'est vrai que c'est un avantage. Et puis, qu'on peut créer des relations avec les enfants des autres aussi, qui sont super.
Zoom Zoom Zen, le best-of, ça continue sur France Inter. Dans un instant, on va se pencher sur le concept d'exploitation dorée ou comment les multimillionnaires exploitent les plus pauvres en toute discrétion. C'est tout de suite après Éloi, Soleil Mort.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Tu m'excites, oui, tu sors ton âme étale. Clair, on brasse et plein d'étincelles. Je brille les poils dans le virage. On m'excite, je pense à tout comme ça déraille. Rien faire de plus, ça ira. Sinon, je finis par m'évincer. Moto noir, bouton sèche et couteau suisse. C'est là mon acier. Un parfum n'a plein d'opiacés. J'ai pris la porte au passage. Je sens ces dents qui m'ont cassé. Des sentiments bien entassés. Perdu dans l'ombre. Et j'ai fini par mon casser. Colère dans les maisons. Colère. La tête dans les guerres.
Zen sur France Inter.
Il est temps de plonger au cœur de cet univers doré des ultra-riches avec notre invité. Bonjour Alizé Delpierre.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous enseignez dans plusieurs grandes écoles et universités et vous venez de publier « Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes » aux éditions de La Découverte. Une enquête pour les besoins de laquelle vous êtes devenu vous-même employé de maison.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une enquête au cours de laquelle donc, j'ai enquêté chez Cyril, notamment.
Évidemment, vous avez des dossiers, on va tout savoir.
Hein. Voilà, oui. Ça fait partie du livre. Non, plus sérieusement, voilà, en fait, c'est une enquête ethnographique, hein, comme on dit en sociologie, donc une enquête de terrain lors de laquelle je suis allée rencontrer des domestiques et des employeurs multimillionnaires. Alors, l'un des volets de cette enquête, c'était que moi-même, voilà, j'enquête en tant que Nani, chez deux familles, notamment.
C'était nécessaire pour voir l'autre côté, parce que sinon, les témoignages ne suffisent pas pour se rendre compte de la réalité.
Alors, l'entretien est très riche en général, parce qu'on rencontre les gens une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, voire plus, si les personnes ont confiance en nous confient plein de facettes de leur vie. Mais ce que j'avais un petit peu de mal à percevoir en fait, dans les entretiens, c'était les relations professionnelles qui se nouaient en fait, entre les différents membres du personnel de maison qui travaillent. Il y a plusieurs dans ces grandes familles. Et donc, pour aller enquêter sur ces relations-là, j'ai décidé d'aller dans les maisons.
On va parler très satisfait de vos services.
Oui, vous êtes peut-être sous couverture, mais vous êtes excellent. Face à vous, justement, Alizé Delpierre, Michel Hazanavicius m'a avoué un jour qu'il avait inspiré le personnage d'OSS 117. En tout cas, il est très aimé de ses domestiques, il faut dire qu'il les traite bien.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Alors donc là, c'était pas le bon son.
Non, c'est pas le bon son, vous allez comprendre pourquoi après.
J'ai l'impression que là, il va y avoir une engueulade après, parce que ça, c'est un son de votre chronique, je pense.
Absolument, Mathieu.
Absolument, on est bien parti pour cette chronique. Parce que
notre réalisateur est dans une forme éblouissante.
Une forme éblouissante. Vous êtes, on l'a dit, rédacteur en chef de cette émission, un emploi assez fictif, nos auditeurs sans doute. Mais comme la vie de rentier vous ennuie, vous avez essayé de vous offrir une chronique. Chaque jour, c'est vous, Cyril, qui remontez aux origines du phénomène qui nous intéresse, en espérant que vos sons partent correctement. Ce qui n'est pas sûr.
Mais c'est en fonction des pourboires qu'on donne à Ghislain. Des domestiques qui servent les riches, d'où ça sort? Eh bien, de la nuit des temps, mon brave Mathieu. On se le disait d'ailleurs samedi soir chez vous, lorsque votre personnel nous servait de cet excellent cheval blanc 82 dont vous veniez de faire rentrer 12 caisses.
Ah, ça n'existe pas.
On a bien ri avec vos amis Bruno Solo, Daniel Cohen et Amanda Lear. Mathieu, vous avez des défauts.
On ne touche pas aux amis.
Mais vous avez des défauts. Mais il n'y a pas à dire, vous savez choisir votre personnel de maison.
C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches.
C'est moins drôle la deuxième fois.
Évidemment, que voulez-vous? Je n'ai pas passé votre son.
Ça n'aurait pas eu de sens.
Cette émission est très mal partie. Bref, c'est ce que vous me disiez. En tout cas, en brandissant votre brandy. Et vous avez même fini par gêner un mandalire. Néanmoins, Alizé Delpierre, vous m'avez mis dans l'embarras. Car voyez-vous, si le thème de votre livre est passionnant, il ne se prête pas à cette rubrique phare de cette émission, non moins phare, de la grille d'Inter. Car oui, l'exploitation de l'homme par l'homme, des pauvres par les riches, et l'exploitation des femmes par les hommes dont vous parlez, eh bien ce n'est pas une histoire nouvelle, elle est tellement pas nouvelle qu'on ne peut pas la dater. Il n'y a pas de moment dans l'histoire où ça a commencé, c'est là, depuis toujours. Et je constate que le dire comme ça, en plein milieu d'après-midi, au milieu de rires par ailleurs, c'est presque triste. J'ai peur, Alizé Delpierre, que l'heure que nous allons passer ensemble ne nous rassure pas beaucoup sur la nature humaine, pour moi qui crois profondément, et malgré les apparences, que l'homme est intrinsèquement bon, ce zoom zoom zen s'annonce une épreuve.
L'homme est un loup pour l'homme, ne l'oubliez pas, Cyril.
Je n'y crois pas beaucoup à cela.
Oui. Merci Cyril, on vous laisse vous remettre après ce travail intense que vous venez de fournir. Alizé Delpierre, comment vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet de la domesticité? Déjà, est-ce qu'on dit encore aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire, de parler de domesticité, ou bien c'est un terme un peu daté?
Alors aujourd'hui, en France, en ce qui concerne la France, on parle plutôt du secteur des services à la personne, qui en fait
oui,
ce secteur.
C'est très large.
Voilà, c'est exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est très large. Ça inclut en fait énormément d'emplois massivement à temps partiel, en fait, que ce soit de ménage, de garde d'enfants ou d'aide à domicile. Et dans ce vaste secteur des services à la personne, on a une sans doute une petite niche de ce secteur qui sont les services domestiques à temps plein. Voilà.
Ça concerne combien de personnes ça en France?
pour avoir une idée, parce que des gens qui peuvent embaucher des domestiques à temps plein, même Cyril Lacarrière, hein, ne peut pas en fait, en vrai. Donc,
Ben justement, voilà, alors c'est toute la question. Moi, j'ai essayé de chercher, justement, de quantifier, en fait, statistiquement, le nombre de personnes qui servaient les multimillionnaires, puisque ce sont des multimillionnaires auprès desquels j'ai enquêté, et ça s'est avéré une tâche impossible, bien qu'en recoupant différentes enquêtes nationales, etc. Mais on peut estimer que ça concerne plusieurs milliers, en fait, de personnes. Alors, est-ce que c'est 3 000, 5 000, 10 000 foyers multimillionnaires? Je ne sais pas.
Oui, on parle de multimillionnaires, voilà.
Hein, voilà, exactement.
Simplement, à partir de... Il faut avoir plusieurs millions, pas qu'un seul.
Alors, je me suis concentrée sur des multimillionnaires. Alors après, il y a peut-être des personnes qui sont juste millionnaires ou qui sont très riches et qui ont une employée peut-être à plein temps, voilà. Mais moi, j'ai voulu vraiment étudier cette part en fait de la population qui elle avait les moyens non pas d'avoir une personne à son service, mais plusieurs en fait.
Et une question personnelle, on l'a dit, vous êtes allé en immersion pour cette enquête. Qu'est-ce que ça a changé de votre propre vie personnelle? Parce que une immersion journalistique, si vous étiez employé à domicile, j'imagine que ça a impacté complètement votre vie personnelle. C'était pas trop compliqué? Comment vous avez fait?
Alors, donc moi, j'étais employée à temps partiel déjà. Donc pas à temps plein, à part pendant 2 mois d'été où j'ai suivi l'une des familles en Chine, en fait. Voilà, donc là j'étais à temps plein pour m'occuper des enfants. J'étais la French nanny qui s'occupait des enfants avec l'équipe chinoise. Et donc ça m'a impacté. Alors disons que en fait en même temps j'étais en train de faire mon enquête de doctorat. Je donnais cours aussi à l'université. Donc
ça évidemment personne ne le savait. C'est complètement
secret. Si, bien sûr. L'enquête était à découvert. Et c'est vraiment un principe que moi je me fixe en tant que sociologue. Je suis pas là justement pour faire du journalisme à couvert d'investigation et tout. C'était à découvert. Je leur ai expliqué que voilà, je travaillais sur le service domestique et que par ailleurs, j'avais besoin de gagner un petit peu d'argent en tant qu'étudiante.
Ça paye mieux, Nani, en Chine, que de multimillionnaire, que sociologue?
Alors oui, Nani à temps plein en Chine, je pense que ça paye mieux que sociologue, mais moi j'étais pas à temps plein, donc en fait j'étais pas bien payée, j'étais payée comme une babysitter en fait, j'étais payée 10 euros de l'heure pour faire ça, donc j'ai pas eu les salaires parfois élevés que je décris dans mon livre, voilà. Mais j'ai hésité à un moment,
j'imagine.
Je me suis dit, en fait, je vais arrêter d'être sociologue.
J'aurais hésité aussi à votre place. Vous écoutez Zoom Zoom Zen, une heure pour décrypter notre époque autour d'un mot, d'une notion, d'un phénomène qui marque l'ère du temps. Aujourd'hui, enquête chez les ultra-riches à la découverte de l'exploitation dorée avec la sociologue Alizée Delpierre. Alizée, vous dites que, au-delà de renforcer les hiérarchies de genre, de classe et de race entre travailleurs et travailleuses, la délégation du travail domestique par les grandes fortunes, supervisée par les femmes riches, ne fait finalement que perpétuer le modèle traditionnel de division sexuée du travail domestique au sein même de leur propre famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette division sexuée, comment elle se manifeste et comment elle perdure ?
Oui, alors en fait, on pourrait croire que en déléguant tout le travail domestique qu'il y a à faire dans son foyer, on aboutirait à une parfaite égalité entre les hommes et les femmes. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, selon les enquêtes les plus récentes de l'INSEE, le travail domestique et parental reste majoritairement un travail de femmes, même si les hommes ont quand même progressé.
On progresse, mais doucement.
Voilà, mais très doucement, en effet. Et donc, en fait, on pourrait s'imaginer que dans des milieux où finalement on ne se pose pas la question de qui va faire le ménage, qui va emmener les enfants à la crèche, etc. Eh bien, on est égalité.
Ça disparaît.
Voilà. Et en fait, non. Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est qu'en fait, la réalité, elle est plutôt une recomposition des inégalités sexuées face aux tâches domestiques. Cette recomposition, elle se fait dans le sens où les femmes très fortunées n'ont pas à prendre en charge physiquement le travail domestique. Elles font pas elles-mêmes le ménage, etc.
Mais elles, c'est elles qui supervisent.
Exactement. Elles supervisent le personnel et elles le recrutent, elles le licencient. Elles gèrent aussi au quotidien tous les éventuels litiges, elles donnent les consignes de travail, etc. Et en fait, ça représente une charge mentale qui est très importante pour ces femmes-là. J'ai même écrit un article académique que j'avais intitulé « La fatigue d'être servie ». Alors ça peut paraître
ça peut choquer,
ironique,
mais
en fait c'est vraiment des propos qu'on m'a livrés parce qu'en fait ces femmes-là, imaginez qu'elles ont parfois 10 personnes à leur service, voire plus, et ben en fait ce sont des véritables chefs d'entreprise chez elles. Et les hommes en fait sont massivement dispensés de tout ce travail relationnel, émotionnel avec le personnel.
Donc ce qui est fascinant dans ce que vous racontez, c'est que même chez les ultra-riches, il y a encore des gagnants, c'est l'homme qui est le multimillionnaire ou le multimilliardaire dans du foyer, mais pas forcément sa femme qui elle se tape tout l'administratif peut-être aussi et la gestion, supervision de ses domestiques.
Exactement.
Vous décrivez aussi, c'est intéressant, une hiérarchie au sein même des domestiques. Il y a un côté Downton Abbey aujourd'hui encore en 2022, quoi.
Ouais. Souvent je disais, mon travail porte sur Anton Abbé au XXIe siècle. C'est bon, ça a quand même un petit peu changé, mais en effet, il y a une hiérarchie. Ce qui est caractéristique de ces milieux très fortunés, c'est qu'on a donc plusieurs personnes et qu'on y a une hiérarchie entre le majordome, la gouvernante, qui plutôt sont au sommet de cette hiérarchie et supervisent, et puis les femmes de chambre, les femmes de ménage, les nounous, les cuisiniers, qui ont des professions un petit peu plus spécialistes et en dessous dans la hiérarchie. Et donc, cette configuration ressemble un petit peu à celle qu'on peut trouver dans des hôtels de luxe, en fait, ou des palaces. Voilà, le majordome étant un peu l'équivalent structurel du concierge, par exemple.
Manon Mariani.
Est-ce que ils utilisent les réseaux sociaux pour chercher des domestiques?
Est-ce qu'il y a un Tinder? C'est
non,
ça notre question, Manon. J'en vois venir.
Pas du tout, mais on voit quand même des applications pour rechercher des femmes de ménage, etc. Est-ce que ça se passe aussi pareil chez les ultra riches?
Bah justement, c'est un de mes prochains projets de créer une application de rencontre. Non, c'est une blague. Mais alors, on utilise les réseaux sociaux, alors pas tant des applications que des sites internet. Alors ça peut être des groupes Facebook hein, qui sont des groupes montés entre personnes qui habitent un même quartier et qui du coup en fait diffusent sur Facebook des annonces voilà pour recruter quelqu'un, ou alors ça peut être des sites internet du type gens de confiance. C'est peut-être un site dont vous avez entendu parler, voilà, qui sont des sites quand même assez fermés, quoique un peu moins aujourd'hui que ce que c'était il y a quelques années, mais qui voilà, qui sont des sites sur lesquels on, alors à la fois on peut mettre une annonce pour une employée qui était à notre service et que finalement on décide de ne plus embaucher parce que les enfants sont trop grands et donc voilà, on va vouloir lui trouver du travail. Ou alors on met une annonce comme quoi on cherche en fait une personne. Voilà. Donc oui, ça peut se faire, c'est une pratique qui se fait.
Face à vous, Alizé, la première fois que je l'ai rencontré dans l'ascenseur de France Inter, j'ai cru que c'était le groom. Je lui ai donc dit 6e étage mon brave. Voyant qu'il ne réagissait pas, j'ai compris. Quentin, lui, n'était pas groom, mais journaliste. Une confusion qu'il m'a vite pardonné. Oh, on me prend souvent pour plus jeune que je ne suis. J'ai eu une pilosité tardive, m'expliquera-t-il sans détour. Quentin, c'est vrai. Quentin, c'est désormais doté d'une belle toison pectorale. Oula. Que vous sillonnez les rues pour demander aux passants ce qu'ils pensent de notre sujet du jour. Alors, où avez-vous choisi d'évoquer l'exploitation dorée?
J'ai choisi Le Mans. Le Mans, la préfecture de la Sarthe, célèbre pour ses rillettes et son circuit où fut un temps j'ai pu exprimer tout mon talent, oh, d'ailleurs, sur deux roues.
Ah oui, parce que monsieur est biker.
Voilà. Allez, on commence avec Paul, 42 ans, très smart, le manteau long, le pull avec le col de la chemise qui ressort, les cheveux en brosse, l'entrepreneur sartois, quoi.
L'exploitation dorée. C'est-à-dire quoi?
Je lui parle de votre livre, évidemment, des majordomes, des gouvernantes.
Ben, je sais pas si ça existe encore, objectivement. Enfin, peut-être dans les grandes fortunes ou la haute société, ce qui n'est pas du tout mon cas. Après, ici, il y a eu une histoire sur les sœurs Papin, qui est une histoire qui est un peu... qu'on connaît bien au Mans, puisque ça a été un peu compliqué. Elles ont découpé quasiment leur patronne. Ça a divisé un peu la France en deux. C'était cette espèce de premier crime des classes sociales.
Paul fait référence évidemment à l'affaire Papin du Mans, où en 1933, ses deux sœurs ont assassiné leur patronne, la mère et la fille de la famille Lancelin. D'ailleurs, la couverture de votre livre « Servir les riches » peut vraiment y faire penser, puisqu'on voit de bonnes assises sur un canapé. Sorti de ce fait divers sordide, Paul, que pensez-vous de ceux qui emploient une femme de ménage, par exemple?
J'ai pas vraiment de jugement là-dessus. Je me dis que si moi je pouvais en avoir une, j'en aurais certainement une, parce que ça nous permet de passer du temps à autre chose qu'aux tâches ménagères. Donc c'est, pour moi, ça, on est plus dans l'ordre du service maintenant, peut-être que de l'ordre de l'exploitation, même si j'imagine quand même que les entreprises qui peuvent employer ces personnes-là, est-ce qu'on est dans de l'exploitation ou pas, elles ne sont pas très très bien payées en tout cas. Elles sont quand même nettement moins bien payées que les gens qui les emploient.
On passe à cette dame maintenant qui marche sur la place des Jacobins, au Mans, où se mêlent la vieille pierre de la cathédrale et le bâtiment futuriste des Quinconces. Le tram qui serpente au milieu, je l'aborde.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom?
Marie-Thérèse.
Je peux vous demander votre âge?
Non.
Bon. Mais par contre, elle me dit qu'elle veut bien m'accorder une minute, pas plus. Elle réagit également sur l'affaire Papin, aussi narrée dans Les Bonnes de Jean Genet, adaptée de nombreuses fois au théâtre.
Bah, ça racontait ce qui se vivait à l'époque, malheureusement. Hein. Elles étaient mal traitées et à force d'encaisser les trucs, elles se sont, j'allais dire, défoulées.
Donc c'était pas forcément de leur faute à elles, ce que vous en sous-entendez?
Non.
Ça explique quand même pas le geste de...
Fatal, non. Bon, la minute est passée.
J'arrive...
Elles donnent pas toutes leurs 06, hein, Quentin, parce que parfois il se fait souvent draguer sur le terrain. Parfois ça se passe un peu moins bien.
Pas Marie-Thérèse, clairement. J'arrive au café du jet d'eau, j'arrête Jean-Pierre, à la retraite d'une carrière professionnelle qui lui prenait beaucoup de temps. Je lui demande s'il a eu une femme de ménage.
Ah bah comme tout le monde, oui. Ouais. Si vous voulez, quand vous travaillez, vous, que vous cherchez quelqu'un qui vous aide pendant que vous travaillez, hein, et vous payez quelqu'un pour vous aider. Tout le monde est content. Je ne sais pas ce qu'on appelle les tâches ingrates ou les tâches pas ingrates, mais faire le ménage, comme le nom l'indique.
Alors, comme tout le monde, non. Hein, j'ai essayé de l'emmener sur ce point, mais Jean-Pierre, il m'a dit que c'était bien comme ça, que j'étais bien gentil avec mon micro, mais qu'il y avait mieux à faire. On termine avec Céline, prof de français dans un collège du Mans. Elle découvre.
L'exploitation dorée, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un nouveau concept sur le personnel à disposition des riches. C'est ça, l'exploitation dorée ? J'ai l'impression que c'est des métiers très rares maintenant, mais peut-être que je suis un peu naïve, hein, je ne sais pas. Ce n'est pas mon univers, ce n'est pas les catégories sociales que je côtoie, donc je n'y connais rien. Enfin,
Vous n'avez pas de femme de ménage ou...
Ah bah si, mais alors d'accord, alors j'ai une femme de ménage qui vient 2 heures par semaine, voilà.
Mais c'est pas comparable.
Ça fait partie du concept d'exploitation dorée ?
Moi j'ai pas forcément la réponse, mais vous, comment vous avez abordé ce recrutement chez vous ?
On s'est posé la question, oui, de faire travailler quelqu'un, c'est vrai, pour faire des tâches qui sont plutôt ingrates à la maison, ça nous a posé question. Ça me mettait pas spontanément, naturellement à l'aise avec la personne qu'on faisait intervenir à la maison, parce que j'ai pas été habituée à ça dans mon milieu social, là où j'étais élevée, donc voilà, c'est... Après, oui, je pense qu'il y a quand même des degrés, mais bon, peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel moment on bascule dans un autre degré. Je ne sais pas si c'est ça l'implicite.
Les interrogations que ça soulève dans la rue sont intéressantes. En tout cas, alors vous, est-ce que vous savez où commence l'exploitation dorée ? Peut-être simplement là où se terminent celles et ceux qui ne se posent même plus la question.
Oui, c'est une bonne définition, ça, Quentin.
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, Alizée Delpierre, de cette... Où est la frontière, finalement, entre les personnes qui peuvent s'autoriser d'avoir une femme de ménage qui les aide 2 heures, 4 heures par semaine et ceux qui ont du personnel à plein temps ? Il y a quand même un monde qui sépare...
Oui, alors ce micro-trottoir est en effet très très intéressant parce qu'il y a quand même un monde. Alors c'est vrai puisque les personnes qu'on entend en fait n'emploient pas à temps plein mais à temps partiel. En même temps il y a un monde et en même temps il n'y a pas un si grand monde que ça en fait entre les deux univers. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au service des riches on a des personnes donc qui travaillent à temps plein mais qui aussi pour une partie sont très bien payées. En fait, et sont beaucoup mieux payés que les femmes de ménage, que les classes moyennes emploient à temps partiel chez elles, qui elles non seulement cumulent les employeurs, cumulent les temps de transport non rémunérés, n'arrivent pas donc à avoir des équivalents temps plein à la fin du mois, et en plus sont payées à l'heure très très mal. Et donc en fait, les femmes de ménage gagnent beaucoup moins que moi les personnes que j'ai pu rencontrer au service des riches. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est chez les grandes fortunes et qu'il y a du travail à temps plein, où on pourrait se dire c'est un rapport totalement de servitude désuet, qu'il y a forcément une exploitation qui n'est pas celle de l'employeur de classe moyenne de femmes de ménage. En revanche, chez les très riches, le fait même que ce personnel soit à temps plein et que la plupart, en tout cas parmi ceux que j'ai rencontrés, dorment chez leurs employeurs...
Ça crée autre chose.
Ça crée autre chose. Ça crée que du coup, ces personnes-là, et c'était ça tout l'ambivalence de cette exploitation dorée, c'est qu'en fait, l'exploitation demeure derrière cette dorure, ces belles conditions de travail, parce qu'en fait, ils ont très peu de temps libre. Ne serait-ce que même pour utiliser leur argent, en fait, et les cadeaux qu'ils gagnent. Alors que la femme de ménage a davantage de temps libre, etc. Mais ça interpelle parce que, et le premier Paul, je crois, que, passant que vous avez interrogé, le dit, en fait, les femmes de ménage, qu'elles soient employées par des entreprises de services à la personne ou en gré à gré, en direct, en fait, par un employeur, sont dans un rapport d'exploitation, alors qui n'est pas de la volonté des employeurs, c'est pas du tout ça la question, mais qui a un rapport structurel qui se dégage aujourd'hui dans une société qui permet à certaines personnes d'avoir à leur service d'autres personnes, et ces autres personnes sont en général toujours les mêmes personnes. Des personnes qui sont plutôt de classe populaire, qui sont plutôt pauvres, issus d'immigration et des femmes.
Il y a aussi un autre point. Vous dites à un moment, Solal, un certain Solal témoigne, il dit « mes patrons me grandissent ». Et c'est un sentiment, vous écrivez, que ressentent beaucoup de domestiques qui travaillent pour... Alors là, on parle des multimilliardaires, des milliardaires. En fait, c'est presque comme si ces domestiques remerciaient leurs patrons. Ils sont reconnaissants d'accéder à... Ils ont l'impression de faire partie d'une autre classe sociale.
Oui, tout à fait. Alors que la femme de ménage chez les classes moyennes, beaucoup
pas
moins.
Du tout, oui.
Voilà, pas du tout. Donc, en effet, c'est l'un des aspects qui crée toute l'ambivalence en fait de ces rapports de travail. C'est que quand on rentre au service des très riches, on est à la fois émerveillé, admiratif, on est fier aussi, en fait, de servir des gens qui cumulent le succès économique, social, symbolique, etc. Et donc oui, Solal, parmi d'autres, m'ont dit « mes patrons me grandissent parce qu'ils m'apprennent des choses aussi ». Alors non seulement ils me font voir une autre société que celle que je connais, un autre milieu social, mais aussi en fait j'ai rencontré certains employés qui apprenaient des choses en fait chez leur patron, ne serait-ce que parce que leur patron a un loisir tel que enfin lit beaucoup ou va beaucoup voir d'expositions et donc a chez lui des œuvres d'art et donc va montrer à son employé quelles sont ses œuvres d'art, lui raconter des choses. Donc les employés apprennent des choses.
Il vaut mieux être majordome que femme de ménage.
Je sais pas. Je sais pas.
Ça dépend chez qui on tombe peut-être aussi.
Ça dépend. Voilà, je pense que ça dépend chez qui on tombe. Il vaut mieux. C'est une question très complexe parce que a priori, il vaut mieux être majordome parce qu'on a un plus haut salaire, parce qu'on n'a pas à avoir accumulé les employeurs, etc. On est logé, nourri, blanchi dans une belle maison, mais en même temps, on n'a plus de vie. En fait. Donc, il n'y a pas de bonne réponse.
Vous écrivez quelque chose d'assez choquant. Vous dites, dans la domesticité, l'assignation raciale des qualités des domestiques est au cœur des pratiques de recrutement. Oui, c'est-à-dire, vous pouvez développer.
Alors, c'est-à-dire qu'on va choisir ses employés presque essentiellement en fonction de ses caractères, sa nationalité, sa couleur de peau, ses origines.
En imaginant que telle nationalité est plus adaptée pour s'occuper des enfants, telle autre pour faire la cuisine. Quoi.
Exactement.
En gros, c'est ce genre d'a priori.
C'est ça, en réitérant en fait tout un tas de stéréotypes raciaux et racistes.
Là, on est bien revenu en 2022.
Oui, tout à fait, on est revenu en 2022, mais qui sont en fait des stéréotypes qui fonctionnent dans plein d'autres secteurs professionnels, mais qui sont peut-être moins explicites et moins dits. Alors, quand on enquête sur la domesticité, on est choqué par le fait même que les employeurs écrivent sur Facebook « je cherche une Philippine » au lieu de dire « une femme », etc. Voilà. Mais en fait, quand on lit par exemple les travaux de Nicolas Jounin, qui est un sociologue qui a enquêté sur les travailleurs du BTP, il explique totalement ce même mécanisme finalement de division du travail en fonction des caractéristiques raciales des employés. Donc les Noirs ne font pas les mêmes tâches que les Arabes, que les dits asiatiques, etc. Et dans la domesticité, c'est vraiment prégnant parce que c'est aussi un marché du travail où il n'y a pas de CV, en fait, il n'y a pas de diplôme. Et donc du coup, il faut trouver d'autres manières d'évaluer les qualités des travailleurs et la confiance qu'on peut accorder aux travailleurs.
Comment vivent les domestiques parmi les grandes fortunes de ce monde? Comment se pratique encore aujourd'hui l'exploitation dorée? C'est notre sujet du jour dans Zoom Zoom Zen. On continue d'en parler juste après Carl Douglas, Kung Fu Fighting sur Inter. Everybody was Kung Fu. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was Kung Fu. We'll be right back.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il passe ses journées devant la chaîne Motus, qui n'existe qu'en Suisse, ou pire, peut-être uniquement dans sa tête. C'est pourtant un garçon talentueux qui a réfléchi lui aussi au phénomène de l'exploitation dorée. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu. Exploitation dorée, servilité étincelante, esclavage sympa. Il faut du temps pour faire son chemin avec cette expression inventée par notre invité Alizé Delpierre. L'exploitation dorée, alors déjà Alizé, bravo d'avoir inventé une expression. C'est pas donné à tout le monde. J'ai moi-même tenté le coup il y a quelques années en essayant de lancer l'expression Lingos du frappadoule. Ça n'a pas pris pareil. Hein. Il n'y a pas eu d'interview, de décryptage, mais bref. Bravo et merci d'être ici avec nous. Je vous le dis, bravo et merci parce que ce sont deux mots, au contraire de maintenant et Rosa, qui semble largement absent du monde que vous avez étudié, celui du travail au service des ultra-riches. Vous décrivez en effet une besogne épuisante, une disponibilité permanente et une domesticité fondée sur le don de soi et non pas sur une logique comptable. Et encore une fois, merci, parce qu'avant vous, j'avais du mal à mettre des mots sur mon rapport de travail avec France Inter. Et d'un coup, tout s'éclaire, les locaux dans le 16e, l'exigence d'une grande maison, Cyril Lacarrière. Je comprends tout, Radio France, c'est un hôtel particulier, en fait, particulièrement moche, architecturalement parlant, mais tout de même, avouez que ça coche les cases. Mais non, ne comparons pas l'incomparable. Dans l'exploitation dorée, le volet exploitation ne fait aucun doute. Des horaires débiles, pas de protection du travailleur, aucun moyen de vérifier ce qui se passe au sein du foyer, obligation de répondre à des exigences, je crois qu'on peut le dire, totalement déglingosses du frappadoule.
Oui, non, ouais, on le fera.
Bon, vous parlez notamment d'une employée virée du jour au lendemain après 5 ans de service pour avoir cassé un verre en cristal sans faire exprès. C'est pas être exigeant, ça, hein, c'est être bipolaire. Ça ressemble quand même gentiment à une coloc avec Kanye West, le bazar. Même vous, Alizé Delpierre, je disais que vous en aviez fait les frais au cours de votre recherche en envoyant un mail commun aux membres du Jockey Club au lieu de personnaliser vos messages.
Oh.
Bah alors, Alizé, on personnalise pas ces messages? On se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Et après quoi, alors, on utilise la curette à homard au lieu du grattoir à tourteau? C'est n'importe quoi, ma grande, hein. Moi, par exemple, j'ai un bon pote qui est suzerain dans le Cantal. Quand je lui écris, je mets « Monsieur le suzerain !» Heureusement que la directrice du bottin mondain était là pour vous sauver la mise. Moi, je l'aurais pas fait, hein. Alors, le bottin mondain, pour ceux qui voient pas, c'est l'annuaire qui répertorie les gens de bonne famille en France. Les gens bien nés, comme on dit. Exemple, Henri-François de Breteuil. Pas exemple, Coé. Alors, pourquoi est-elle dorée, cette exploitation? Tant de questions s'entrechoquent dans mon cerveau. Pourquoi ce qualificatif doré? Y a-t-il un rapport avec Julien? Est-ce parce que les riches font
Paris, Seychelles
15 fois par mois en jet? Eh bien, non. C'est simplement parce que ça brille. Hein. Et pour une partie de la société dénuée de tout privilège, c'est bien une, voire la meilleure, voire la seule occasion d'espérer accéder à un monde plus beau, quitte à nettoyer une piscine sans en avoir l'accès, quitte à conduire une belle voiture sans en avoir la propriété, quitte à repasser de beaux vêtements sans jamais pouvoir les mettre. Pour certains et certaines, il aurait pu y avoir bien pire et le monde peut-il être plus cynique? Quand on sait que c'est vrai, le salaire est correct et le rapport parfois cordiaux. Hein. Comment ne pas penser à la relation pleine de tendresse et de respect qui unissait Isabelle Balkany au sémillant grain de riz. Les cadeaux ne sont pas rares. Un vase design alors qu'on a nulle part où le foutre. Un livre alors qu'on n'aura jamais le temps de le lire. Un sac Chanel, même si on va pas se mentir, c'est pas non plus un Hermès. Il n'y a pas à dire, les riches se démènent pour transformer le syndrome de Stockholm en syndrome de Neuilly-sur-Seine. Et oui, ça coûte pas rien d'entretenir une domination. Mais et que mon pote suzerain dans le Cantal se rassure, étant donné ce qui nous attend, les réfugiés climatiques arriveront bientôt par millions pour casser les prix. Et si ça suffit pas à définitivement creuser l'écart entre les ultra-riches et les autres, les robots prendront vite leur lait, afin qu'il n'y ait même plus besoin de s'emmerder avec des pauvres. Ouf, si ça c'est pas une bonne société, bien déglingos du frappadoule, je ne sais pas ce que c'est. Bonne semaine.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. On revient en direct lundi. On s'intéressera au lobby et à leur pouvoir d'influence. Rendez-vous lundi 16h sur Inter.
Thank you.